Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Serge Carrera. Il est responsable de l'initiative Marque Émergente chez la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Bonjour Serge.
Bonjour Adrien.
Je suis très heureux de te recevoir dans mon podcast. On parle souvent de toi, tu sais. Tout le monde a beaucoup de gentils mots envers toi. Donc je suis trop content de passer, j'espère, le plus longtemps possible avec toi pour revenir sur ton parcours, pour comprendre qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien aussi à la Fédération de la Haute Couture et à l'école et chez Sciences Po, parce que tu as cette double casquette hyper intéressante. Ma première question, c'est la suivante, c'est est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Donc, merci beaucoup, Adrien, pour ces gentils mots. J'espère que j'en serai à la hauteur. J'ai fait des études qui n'ont aucun rapport avec la mode, sachant que j'ai étudié du droit international, plus précisément du droit international public. Mm-hmm. Ensuite, comme je savais toujours pas trop quoi faire, j'ai fait Sciences Po. Ça m'a beaucoup plu aussi, mais ça m'a permis de temporiser, de gagner 2 années dans ma réflexion. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de faire un premier stage au Galeries Lafayette et qui m'a plutôt stimulé et intéressé et mené sur ce chemin un petit peu de la mode. Et c'est comme ça que j'ai mis un premier pas dans le secteur. À la fin quand j'ai été diplômé de Sciences Po, j'ai eu l'opportunité d'aller 3 mois à New York faire un stage chez Barneys. Et ça m'a confirmé dans ce choix. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à travailler. En rentrant à Paris, j'ai rejoint les Galeries Lafayette où je travaillais auprès du directeur artistique qui venait d'être nommé sur des projets de retailtainment à l'époque, qui était
déjà on parlait de ça.
Oui,
retailtainment,
c'était le tout début où c'était diversifier et créer des expériences spéciales et assez uniques avec les clients du grand magasin, mettre en scène tout ça avec une personnalité assez géniale qui est Jean-Luc Choplin, qui ensuite est devenu directeur du Théâtre du Châtelet, puis directeur du Théâtre de Marigny. Et donc, effectivement, pas mal d'aventures, de rencontres avec des artistes, mais aussi ça a été de travailler avec des créateurs pour faire des vitrines, toutes les vitrines du boulevard Haussmann avec Sonia Riquel ou avec Alaya. Tout ça est des très bons souvenirs et des moments extrêmement stimulants.
Génial.
Et ensuite, j'ai rejoint la centrale d'achat au Galeries Lafayette où je m'occupais de mode femme, où je travaillais comme acheteur sur la mode femme haut de gamme. Et j'ai, après 4-5 ans en tout au Galeries Lafayette, j'ai rejoint le groupe Prada où je me suis d'abord occupé de retail merchandising pour la France, des collections Prada. Et ensuite, lorsque le siège de Miu Miu a déménagé à Paris, j'ai rejoint l'équipe de Miu Miu, donc toujours dans le même groupe, mais une autre maison et un autre univers et un autre esprit aussi, qui pour le coup avait un côté très start-up parce que c'était une toute petite équipe, mais avec une croissance extrêmement dynamique. Et je me suis occupé du collection merchandising et du retail merchandising pour le prêt-à-porter pour le monde.
Ça veut dire quoi, retail merchandising
et le terme que tu as utilisé.
Et le collection merchandising. Ouais. Alors le retail merchandising, c'est... Alors il y a deux grandes écoles dans les maisons de luxe, ou en tout cas dans les maisons qui disposent de leur propre réseau de distribution. C'est soit c'est chaque directeur de boutique qui fait les achats pour ses boutiques de produits, qui sélectionne la collection. Soit vous avez des équipes, les retail merchandisers, qui sont les personnes qui vont être le lien entre le siège et les boutiques et qui vont faire des assortiments, travailler sur les collections, les besoins de produits et donc d'être un peu les relais entre tous les points de vente et le studio, la production, etc. Donc c'est vraiment cette activité. Et le collection merchandising, c'est un peu le collatéral, c'est plus en amont, c'est de travailler avec les équipes de style et avec la production sur la définition de la collection, sur quels sont les besoins éventuels. Et c'est vrai que c'est deux activités qui sont assez complémentaires et liées, en fait.
Et ça, en fait, c'est un lien entre le design et le commercial, quoi.
Oui, mais absolument.
Très, très, très important. Très bien. Donc, tu fais ça pendant 3 ans et pratiquement 4 ans, 3 ans et demi. Et ensuite, tu deviens COO.
Oui.
De Marie 4 en dessous.
Tout à fait. L'idée, c'était de voilà, j'avais travaillé dans un environnement international, mais c'était aussi de me confronter à une autre type d'expérience internationale et donc de bouger, de rejoindre aussi une autre réalité qui était celle d'une jeune marque à Londres, donc avec Marie 4 en dessous. Et donc, effectivement, d'être en charge de la coordination un petit peu entre justement le studio, le développement, la production, le marketing, le commercial.
Tout, quoi.
Non, pas la création.
Pas la création.
Et pas la finance.
D'accord.
Voilà. Donc, c'était vraiment s'assurer qu'on se développe. Et à un moment extrêmement intéressant, qui était que la marque allait fêter ses 10 ans. Donc c'est aussi pour une marque généralement un moment un peu pivot, justement de réussir à se consolider et à on va dire dessiner des voies de développement pour se pérenniser. Donc c'était vraiment un moment intéressant, justement parce que c'est une maison qui existait, qui existe, qui a qui était déjà présente. Donc c'était comment consolider toute cette base et développer de nouveaux projets.
Trop bien. Et tout ça, tu l'as fait en parallèle en étant professeur, enfin on dit lectureur, maître de conférence à Sciences Po. Avant de rentrer dans Sciences Po et puis dans la Fédération de la Haute Couture, moi j'aimerais bien revenir un tout petit peu en amont. Tu t'es né où? T'as grandi où?
Moi, je suis né en région parisienne.
D'accord. Donc, voilà, pur produit parisien. Non, région parisienne.
Francilien.
Pur produit francilien. Et sur tout ce que tu as fait avant, au Galeries Lafayette, chez Prada, Miu Miu et Marie 4 en dessous, si tu pouvais nous... Quels ont été les apprentissages? Alors, c'est compliqué comme question, mais j'ai l'impression que tout ça t'a vraiment préparé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est marrant parce que c'est un peu linking the dots, finalement. Mais pour revenir sur, par exemple, Marie 4 en dessous, parce que chief operating officer d'une marque comme celle-ci, qui était à l'époque en pleine explosion et en ébullition et qui était vraiment sous les feux de la rampe, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? C'est 2 ans, donc c'est relativement court, mais suffisamment long pour mettre en place 1 milliard de choses. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Et peut-être remettre un peu dans le contexte aussi les choses, parce que je trouve ça, j'ai envie de diguer dans cette aventure.
Alors, on est dans une période pré-crise sanitaire.
Ah oui, c'est vrai. On ne connaissait pas ça.
Il y a eu une période pré-crise sanitaire.
Ouais.
Non, on est dans une période. On était. Et aujourd'hui, on est dans le prolongement, malgré tout ça, dans un contexte où le schéma traditionnel du wholesale pour les marques indépendantes devenait de plus en plus difficile, où il fallait effectivement naviguer. Et c'est là où c'est intéressant pour une marque qui a 10 ans, c'est qu'on n'est plus la nouvelle marque dont
sexy,
que tout le monde cherche absolument à avoir parce que c'est la nouveauté. On n'est pas une marque installée, reconnue, globale, etc. Et donc, c'est comment réussir à exister dans ce contexte. Développer des nouveaux projets. Alors c'est notamment on a mis en place plusieurs et l'univers de Marie se prêtait très bien à ça, à plusieurs types de collaborations. Bien évidemment, je pense que l'une des plus fortes en termes de notoriété a été la collaboration avec Victoria's Secret, où après Balmain, Marie 4 en dessous dessinait une collection ou une partie du défilé de Victoria's Secret.
C'est fou ça, comment on va chercher ça d'ailleurs?
C'est des rencontres, c'est des sollicitations. Alors l'univers de Marie 4 en dessous étant autour de l'imprimé, ouais, c'est vrai qu'on recevait un flot de demandes quotidienne.
Ouais, quotidienne. Ah ouais, à ce point-là.
De collaboration qui peut aller de déodorants à des yaourts, etc.
Ouais.
Mais avec après des choses assez extraordinaires comme effectivement Jimmy Choo ou Victoria's Secret ou travailler avec Disney et Colette. On a fait l'une des dernières vitrines de Colette en novembre 2017, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est aussi des projets qui peuvent arriver et qui sont assez extraordinaires.
Et d'ailleurs, tous ces projets, ces collaborations, etc., c'est une façon d'avoir de l'actualité dans la marque, c'est une façon d'exister, c'est une façon d'acquérir aussi de nouveaux clients, d'exister. C'est vraiment puissant, ça a vraiment un impact très puissant sur ce que vous faisiez. On voyait un impact direct sur le chiffre d'affaires?
Bah, ça a un impact dans le sens où ça conforte la notoriété de la marque, sa désirabilité. Pour un certain nombre de ces collaborations, c'est aussi l'occasion de pouvoir les vendre en direct sur le site de e-commerce en complément des collections de la maison et donc de générer du trafic parce que effectivement la capacité quand vous êtes une marque indépendante, la capacité de générer du trafic, elle est difficile. Donc bien évidemment, quand vous avez le levier d'une grande marque derrière
ou d'un gros retailer,
ça crée effectivement un levier extrêmement puissant pour justement vendre un peu plus et d'avoir un impact effectivement direct sur le chiffre d'affaires. Et ensuite, l'un des critères réellement sur ces collaborations, c'était d'essayer de trouver à chaque fois en fait un secteur qui a une technicité qui fait que c'est grosso modo un secteur qu'on n'aborderait pas nous-mêmes. Ça a été le cas effectivement de la lingerie. Ça a été le cas, on a fait une collaboration avec une marque de doudoune canadienne qui s'appelle Moose Knuckle, donc c'est typiquement un produit très technique sur lequel on ne serait pas allé non plus. Mais justement de travailler avec des gens extrêmement qui ont une technicité, des savoir-faire que nous on ne pourrait pas se permettre d'avoir.
Voilà. Et si tu avais le principal apprentissage de ces deux années comme Chief Operating Officer de cette marque, ça serait quoi? C'est dur hein, comme question, oui, je suis désolé, je commence hardcore. Non, ou trois, tu vois.
Non, je pense que ça apprend de l'agilité, parce qu'effectivement, on a des contraintes de ressources à la fois financières et humaines, parce que c'est pas des équipes énormes, c'est pas des recettes, voilà, on est aussi par ailleurs financièrement ça apprend de l'agilité, parce qu'il faut faire surtout à ce stade-là, il faut faire un peu comme les grands, mais sans avoir les moyens des grands.
Je pense que ça va être assez régulier dans notre histoire, parce que absolument. Finalement c'est le sujet de toutes les petites marques quoi.
Donc de l'agilité, de l'ouverture et en fait de la, et je pense que c'est un moteur global et de la curiosité.
C'est clair.
Faut jamais dire non a priori à une collaboration. Il y en a certaines où instinctivement on se dit jamais, mais on regarde toujours, il faut toujours rester ouvert aux choses.
Et vous disiez non quand même beaucoup, parce que bon, les yaourts,
oui,
et,
mais on regarde quand même.
Ouais, ouais, on prend le temps de regarder, même si on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, moi, ce qui m'impressionne beaucoup et qui m'interpelle, c'est cette volonté de transmettre tout le long de ta carrière chez Sciences Po. Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi tu as décidé de le faire et comment ça s'est présenté? Voilà, 18 questions en une question.
Comment ça s'est présenté? En fait, il y avait dans les années 90 un cours sur le luxe à Sciences Po qui était animé par le comité Colbert et qui s'était arrêté. Donc il n'y avait pas de cours, fondamentalement. Il n'y avait plus de cours, plutôt. Et d'où cette proposition qui est venue en échangeant avec des personnes avec qui j'étais resté en lien de Sciences Po,
ouais,
de ma scolarité, et d'où le début de ce projet de faire un cours là-bas qui progressivement est devenu assez important et essentiel pour moi, sachant que c'est l'occasion de prendre du recul, de s'extraire complètement du quotidien, parce que quand on enseigne, on est pendant 2 heures avec les étudiants et donc c'est par ailleurs une discipline extrêmement exigeante de devoir remettre en question ce en quoi on croit, parce que les choses changent, évoluent, eux-mêmes les questionnent et c'est intéressant justement de se confronter à ça. Et d'être dans la recherche constante et d'essayer de comprendre les choses plutôt que de les juger. On est dans une industrie où effectivement la plupart de nos métiers sont d'une certaine façon dans le jugement, mais ce qu'il faut avant tout, c'est effectivement d'essayer de comprendre. Après, on aime, on n'aime pas, mais la question n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer, c'est vraiment d'essayer de comprendre plutôt qu'est-ce qui se passe quand quelque chose a du succès ou voir quand quelque chose ne marche pas.
Et t'arrives à comprendre tout ça? T'essayes en tout cas.
On essaye de dresser des hypothèses,
okay,
pour essayer de comprendre.
Donc, là-bas,
après, c'est toujours facile à posteriori.
Oui. Oui, oui, c'est sûr. C'est plus facile de commenter que de prévoir. L'esprit du luxe, savoir-faire, innovation et création, ça c'est une des lectures, enfin un des cours, enfin, on dit lecture, mais ça c'est le langage universitaire, non, de
c'est lecture, le langage anglo-saxon, d'un cours.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est un cours. Et introduction générale à la mode et au luxe. Je ne sais pas si tu as un peu de temps devant toi, mais j'aimerais bien qu'on digue là-dedans. C'est quoi la mode? C'est quoi le luxe?
Alors, pour ce qui concerne le luxe, j'ai le premier cours qui dure 2 heures pour dire qu'il n'y a pas de définition précise, donc je vais peut-être vous épargner les 2 heures. Non, le luxe, c'est effectivement une définition complexe parce que fondamentalement, c'est un terme subjectif et pas objectif. Et donc on peut chercher à théoriser dans tous les sens sur ce qu'est le luxe. Fondamentalement, on peut plutôt juste dresser des sortes de critères plus qu'une définition en une phrase. Donc le luxe, c'est quelque chose qui est authentique, c'est quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est lié aussi à une quête d'esthétique. C'est quelque chose qui est d'une qualité absolue. Donc il y a un peu toutes ces dimensions à la fois qui font que finalement c'est du luxe ou ça n'en est pas. La mode, c'est aussi un peu la même chose. Mais fondamentalement, moi, ce que j'aime dans la mode, ou en tout cas ce qui me fait penser à la mode, c'est effectivement cette création qui permet à chaque individu de construire son identité dans un contexte social, historique, donné.
Très bien. Est-ce que c'est une définition, enfin le luxe, est-ce qu'il a évolué, enfin il évolue forcément en permanence, toi depuis les années 90, en tout cas déjà depuis 2004 où tu as commencé à faire ce cours-là, j'imagine qu'en l'espace de pratiquement 20 ans, il a vachement évolué quoi.
Oui, c'est l'une des éléments extrêmement intéressants du luxe, c'est que c'est... Il y a cette qualité qui lui confère une sorte d'intemporalité tout en ayant la nécessité de refléter la société. Et c'est en ce point d'ailleurs que le luxe peut se rejoindre avec la mode et qu'il y a des ponts qui existent. Et incontestablement, aujourd'hui, il y a des ponts entre ces deux industries. À partir du moment où il y a quelque chose de fascinant, c'est que c'est fondamentalement une industrie de l'offre et pas une industrie de la demande. Et c'est parce que c'est une industrie de l'offre qu'elle reste si particulière. Et c'est parce que c'est une industrie de l'offre qu'elle se doit d'être pertinente par rapport aux aspirations de chacun, ou en tout cas de certains.
Ouais. Pourquoi c'est un sujet qui te passionne, toi ? Pourquoi t'as dédié ta vie à ça ?
Je dirais pas que j'ai dédié ma vie au luxe, mais parce que c'est un sujet qui, derrière ses airs très futiles, parle vraiment du monde. Et je pense que c'est ça qui est intéressant.
C'est ça qui te passionne.
En tout cas, c'est ça que j'essaye de trouver.
Qui t'anime, en tout cas, qui t'anime.
J'essaye de trouver.
Ouais. Et donc, l'esprit du luxe, savoir-faire, innovation et création, ça, c'est aussi un cours que tu donnes. Quelle est la différence et pourquoi un deuxième cours c'est dans la continuité, c'est ça que ces deux cours, tu as l'introduction et puis derrière, tu as le cours l'esprit du luxe, c'est ça?
Oui, le second cours, je l'anime avec Pierre Gropot et l'idée, c'était d'approfondir certains éléments,
okay.
Plus dans cette idée un peu aussi de storytelling, de savoir-faire, de patrimoine des maisons. Et justement d'aborder toutes ces dimensions plus particulières qui contribuent à façonner cette aura de l'industrie,
ouais.
Et des maisons en particulier.
Trop bien. Et on peut être auditeur libre de ça ?
Il faut s'adresser à l'administration. Je n'en prends pas la responsabilité.
Ok, très bien. Depuis octobre 2019, donc t'as le sens du timing parce que c'était quand même un moment. On est en 2019, on est en pleine crise.
On est 4 mois avant. J'ai eu le droit à une seule Fashion Week normale, une seule saison normale.
Très bien. Déjà, peut-être pour commencer, c'est quoi la Fédération de la Haute Couture et de la Mode ?
Alors, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, comme l'indique son nom, c'est une fédération.
Ouais.
Donc, elle est composée de trois, on va dire, corps. Il y a la Chambre syndicale de la Haute Couture, qui régit la semaine de la Haute Couture.
Ouais.
Il y a la Chambre syndicale de la Mode masculine, qui régit la Fashion Week homme.
Ouais.
Et la Chambre syndicale de la Mode féminine, qui régit la Fashion Week femme. Donc voilà, bien évidemment, quand on travaille pour la fédération, on travaille pour ces trois entités différentes et de façon un peu distincte.
Ouais.
Mais en tout cas, structurellement, c'est ça. Et on va dire que la fédération, elle réunit l'ensemble des marques qui sont justement dans ces calendriers. Elle organise et structure ces calendriers des Fashion Week ou de la semaine de la haute couture et a par ailleurs aussi une activité dans le champ plus d'organisation professionnelle, sachant qu'il y a aussi notamment une convention collective sur la haute couture qui existe.
Donc, d'accord. C'est quoi les critères pour rentrer dans cette fédération-là?
Le critère, c'est d'être dans les calendriers, essentiellement.
D'accord. Voilà. Dans les calendriers. Donc, il faut défiler ou présenter, c'est ça ?
Voilà, absolument. Il faut être soit dans le calendrier des présentations, soit dans le calendrier des défilés.
OK.
Cette admission et cette inscription dans les calendriers, elles dépendent de comités qui sont des comités indépendants. On ne vote pas. J'ai l'habitude de dire ça aux marques qui sont toujours un peu surprises. Donc, c'est pas pour... se dédouaner qu'on dit qu'on ne vote pas, mais c'est juste de fait, c'est des commissions.
Donc c'est un groupe de personnes qui décident.
Pour la mode masculine et la mode féminine, c'est la présidente, on peut dire la présidente parce que chaque chambre est présidée par une présidente, de la chambre syndicale et deux journalistes et deux acheteurs. Donc voilà.
Très bien.
Ils sont anonymes, okay. Parce que pour éviter à la fois toute pression et ensuite toute
copinage.
Et ensuite toute répression. Parce qu'effectivement, un acheteur ou un journaliste peut très bien connaître un créateur et en même temps ne pas avoir accepté son inscription au calendrier. Donc voilà.
Et la grille de lecture de tout ça, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une grille de lecture ou c'est vraiment beaucoup plus subjectif que ça?
C'est une combinaison de facteurs. Ouais. C'est une combinaison sur la créativité. Et donc là, on est bien évidemment dans la subjectivité.
Absolument.
Bien évidemment. Ouais. Non, mais sachant qu'elle est couplée par une réalité, la réalité économique du développement de la maison. C'est combien il y a pour une vente. Un autre point important, c'est la diversité de ces points de vente. Justement, le fait est que les marques de création sont des marques qui exportent. Et donc, même si vous pouvez avoir une très grosse marque asiatique ou américaine qui fait un très gros chiffre d'affaires, mais si son chiffre d'affaires est réalisé à 100% dans son pays, c'est une marque domestique. Et donc, elle ne remplit pas complètement ce critère d'être une marque de création qui est vendue internationalement et a ce rayonnement global. Et ensuite, effectivement, l'écho qu'elle peut avoir dans la presse. Et donc, bien évidemment, on peut... on va dire qu'il y a une présomption qu'une marque qui est très créative ou en tout cas qui est appréciée de l'industrie va avoir des articles qui vont être des articles d'auteur.
Hyper intéressant. Et la frontière est quand même assez fine entre le prêt-à-porter et le luxe finalement, parce qu'il y a beaucoup de marques qui auraient été dans la case prêt-à-porter et qui défilent quelques temps après. J'ai l'impression que c'est quand même assez... Ben je pense on peut parler de certaines marques, mais par exemple, Alexandre Mathusi, il a un côté très prêt-à-porter. Alors, c'est bien sûr, c'est un créateur, c'est un créatif, etc. Mais c'est des vêtements qui sont dans une réalité, quoi, et qui sont assez commerciaux. Mais pourquoi défile-t-il ? Il défile, et il est dans la fédération de la haute couture.
Oui, mais effectivement. Après, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature que les marques de création sont des marques impossibles ou fantasques, et avec le grand fantasme que on fait défiler n'importe quoi sur un podium et il y a la collection commerciale derrière, etc. Je pense qu'on est aujourd'hui dans d'autres... dans un autre système, ou en tout cas dans une autre approche que ça ne pouvait l'être éventuellement, effectivement, dans les années 90, où on avait des podiums extravagants de choses absolument importables, et derrière on faisait des licences de polo ou de chemise ou de cravate pour permettre tout ça. Donc oui, il y a de la réalité aussi. Ensuite, voilà, pour l'exemple précis d'Ami, il remplit l'ensemble de ces critères d'être une marque qui est distribuée globalement, d'avoir une audience globale, d'être très reconnue par la presse comme une marque de création, et d'avoir aussi évolué au fur et à mesure, et notamment à travers l'exercice du défilé, sur justement une approche de plus expérimentale, créative, etc.
Trop bien. Venons-en à ton activité, à toi, donc responsable des initiatives des marques émergentes. Ça veut dire quoi ? Déjà, c'est quoi une marque émergente ?
Alors, oui, c'est la question complexe. Alors, déjà, le vocable, le choix de marque émergente plutôt que jeune créateur, c'était aussi pour acter le fait que... aujourd'hui, il y a un certain nombre de marques qui sont lancées par des gens qui ont 10, 15 ans, 20 ans dans l'industrie et qui justement ont envie de lancer des projets. Et que ce vocable jeune créateur était un peu jeuniste et par ailleurs réducteur.
En tout 30 ans, c'est fini quoi. Ouais.
Et donc, l'idée c'est de se dire, il n'y a pas que des jeunes diplômés d'école qui lancent leur marque, qui ont besoin de soutien et d'accompagnement, c'est l'ensemble des projets innovants, nouveaux, qui sont créés. Donc ça c'est le premier point. Donc il y a essentiellement, trois critères. Le premier c'est d'être dans les calendriers ou d'avoir potentiellement, d'être candidat au calendrier et de pouvoir y être, et parfois de ne pas encore y être, mais d'être... au seuil d'y accéder. Et ensuite, deux critères objectifs qui sont d'avoir moins de 10 ans, ou en tout cas c'est la frontière qu'on s'est fixée, d'avoir moins de 10 ans et environ moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Ce qui est déjà énorme.
Ce qui est déjà beaucoup, mais c'est, pour y arriver, c'est pas forcément évident.
Ouais, c'est clair, ouais. C'est un vrai truc. Et concrètement, c'est quoi vos services? Comment vous les accompagnez? Comment vous les sélectionnez aussi? Parce qu'à un moment donné, il y a toujours une histoire de sélection. Et comment vous les accompagnez dans le quotidien? Et puis on va diguer dans plein de sujets parce que j'ai l'impression que c'est quand même c'est vraiment difficile aujourd'hui. Enfin, plus que ça n'a jamais été, j'ai l'impression. Et en même temps, on se dit qu'on est quand même à une époque qui est assez extraordinaire parce que potentiellement, tout le monde a pignon sur rue. Quoi. On n'a plus besoin, a priori, d'avoir la validation de qui que ce soit pour pouvoir exister. C'est toute la folie de notre époque, d'ailleurs. Mais commençons par le commencement. C'est comment est-ce qu'on est sélectionné, comment est-ce qu'on est accompagné par cette fédération de la haute couture et comment... concrètement, qu'est-ce que vous faites avec ces marques?
Alors, la base de la sélection, elle est très simple. Et elle est en dehors de nous, c'est les calendriers.
Ouais.
Donc, à partir du moment où une marque rentre dans le calendrier et qu'elle remplit ces critères-là, elle devient une marque émergente et donc elle rentre dans nos dispositifs et dans nos champs d'action. C'est pas une question de mes goûts, c'est pas une question de quoi que ce soit. Ensuite, il y a effectivement, comme je disais, il y a des marques qui sont au seuil des calendriers et qui peuvent parfois décider même d'attendre une saison ou deux, mais que l'on peut suivre ou qui peuvent avec qui déjà on est en contact. C'est bien évidemment des marques qui peuvent gagner des prix.
Ouais.
On a la chance d'avoir un ensemble un écosystème extrêmement riche justement de filtres professionnels d'expertise internationale. Vous voyez, un festival d'hier, le prix LVMH ou le prix de l'ANDAM sont bien évidemment des structures qui nous permettent aussi de repérer des gens ou en tout cas avec qui on échange sur justement
ça, c'est extraordinaire,
comment
vraiment.
On peut suivre les choses.
C'est une chance folle.
Et effectivement, c'est une... dans le sens où justement, comme on a cette chance d'avoir cette richesse dans l'écosystème et déjà avec une structure, on va dire, d'expertise professionnelle. Moi, je ne suis pas là tout seul pour dire que j'ai découvert un artiste, un créateur que personne n'a vu et que personne n'a repéré.
C'est un bon lapsus, hein, artiste, créateur.
Non, en plus, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les créateurs sont des artistes.
Ok, ça c'est fait.
Effectivement, c'est cette idée de l'artiste inconnu c'est la figure de l'artiste un peu méconnu mais qui tout d'un coup émerge qui m'est venu en tête quand je pensais à cela. Donc oui, c'est collaborer avec l'ensemble de l'écosystème. C'est ce qui nous a permis d'accueillir dans le showroom Sphere un Kenneth Eyes, un TB Magougou, avec le festival d'hier pour Christophe Rumpf. Donc voilà, il y a toute cette idée aussi un peu de synergie et de travailler ensemble parce qu'effectivement, comme tu le soulignais, c'est paradoxalement, ça n'a jamais été aussi facile de créer une marque. Mm. Voilà, je mets deux bouts de tissu ensemble, je les couds, je fais une photo, je la mets sur Instagram, j'ai créé ma marque.
Bah ouais.
Fondamentalement. Mes durées n'ont jamais été aussi difficiles. Mm. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas, contrairement à il y a 20 ans, d'avoir une chaîne de grands magasins américains qui vous achète pour 20 boutiques et qui vous passe 1 ou 2 millions d'euros de commandes comme ça, alors que vous sortez de nulle part.
Ouais, c'est fou. Ça existait.
Oui. Donc c'était très difficile d'avoir ça, mais quand vous l'aviez un peu pérennité pour quelques saisons. En tout cas. Après, quand c'était trop confortable pour certains, c'est ce qui les a conduits après à disparaître. Mm. Mais en tout cas, voilà, c'est difficile parce qu'il faut savoir activer tous les leviers de sa notoriété, notamment digital, mais pas seulement, aussi vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de communautés, etc. D'être dans l'obligation de communiquer de façon répétée, continue, avec un message très clair, alors qu'on est encore au stade des débuts.
Donc bien sûr.
Pas non plus une. Voilà, c'est comment être en mesure, même quand on a une approche complexe ou un univers complexe, de savoir le transmettre de façon claire, parce que c'est aujourd'hui l'enjeu essentiel. De faire également du commercial, mais de connaître toutes les contraintes de la production pour produire en temps et en heure, d'être engagé socialement, etc., ce qui est objectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence aujourd'hui pour la nouvelle génération. Donc, ce qui est assez fascinant aujourd'hui, c'est de voir que cette nouvelle génération, elle est à la fois très idéaliste, très engagée et très pragmatique. Elle sait très bien que c'est difficile. Elle ne pense pas que les choses lui sont leur sont dues. Et justement, il y a une sorte de volonté et d'humilité à la fois.
Trop bien. Toi, tu n'es pas tout seul. J'imagine qu'il y a une équipe derrière ce département-là, ou en tout cas cette initiative-là de la fédération. Tu es accompagné par qui ? C'est beaucoup d'intervenants extérieurs ou c'est des gens qui sont en interne de la fédération ?
Alors, nous, c'est un travail dans le sens où ça implique une collaboratrice, Christelle, qui est très engagée, notamment sur tous les suivis plus du showroom, notamment d'un point de vue opérationnel, sur aussi un certain nombre de projets qu'on peut avoir sur les aides à la digitalisation des showrooms, etc. Et un certain nombre de dispositifs qui peuvent exister et être mis en place vis-à-vis avec le défi. Ensuite, c'est toute la fédération qui est engagée, bien évidemment, c'est travailler avec eux sur le calendrier, c'est travailler avec eux sur la communication, c'est travailler avec eux sur du juridique. Et sur un certain nombre d'actions, on a pris ou en tout cas c'est le mode de fonctionnement, c'est de travailler avec des partenaires qui vont leur apporter et on a essayé de développer ça de plus en plus dans des approches individuelles pour essayer de cerner en fonction du parcours de chacun à quel moment ils ont besoin spécifiquement de quelque chose.
Ouais.
Plutôt qu'une sorte de mentoring général pour tout le monde sur des sortes de recettes.
Ouais.
Et donc, c'est de privilégier effectivement de savoir à quel moment ils ont besoin de conseils sur du e-commerce. Et donc, c'est de trouver avec Faber Novel, notre partenaire, justement des conseils spécifiques et pendant un an une expertise avec des rendez-vous mensuels sur le e-commerce. D'autres vont avoir plutôt des besoins. On a notamment complété ces dispositifs et l'un des dernières briques qu'on vient de rajouter au dispositif, c'est avec une plateforme logistique qui s'appelle Stellae, Et donc l'idée est quand une marque atteint plus ou moins 1000 pièces par saison et que donc la logistique commence à devenir ingérable, généralement dans son garage, dans son garage, dans la chambre de bonne ou quoi que ce soit, de pouvoir bénéficier pendant un an des services gratuits de Stellae. Et justement, l'intérêt, c'est pas uniquement d'avoir pendant un an des services gratuits, mais c'est d'avoir des professionnels qui vous apprennent comment aussi optimiser votre logistique, structurer votre logistique, comment vous faites les expéditions, comment vous préparez vos cartons, comment éventuellement vous faites des packs pour que les choses coûtent moins cher en termes de manipulation, parce que toucher un t-shirt ou toucher une chemise ou toucher une robe, ça coûte 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, et donc ça peut très vite devenir un coût extrêmement important qui va impacter votre marge. Et j'avoue qu'il n'y a rien de pire que quand quelqu'un vient vous avouer au bout d'un moment que en fait il a passé deux ou trois commandes mais qu'il perd de l'argent alors qu'en produisant et en livrant ses commandes.
Voilà. Ouais, c'est un peu frustrant. Ouais. Mais ça arrive. Et ça arrive au meilleur.
Ça peut arriver, oui.
Comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas... Enfin, il y a tellement de sujets là, c'est énorme. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas... Quand on est à la tête d'une organisation comme celle-ci, de faire attention de ne pas appliquer des recettes. Parce que je trouve qu'on... Enfin, j'ai le sentiment, moi, que... Tu l'expliquais très bien tout à l'heure. De toute façon, quand t'es arrivé, et même ça fait quelques années quand même que le système de wholesale, de vente à des revendeurs, etc., de système de salon, etc., est en perte de vitesse. Enfin, en tout cas, quand on est un jeune créateur, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué. À l'époque, tu le disais tout à l'heure, t'avais les Barneys, les Américains qui arrivaient, qui t'achetaient pour 19 magasins ou 20 magasins, et c'était gagné. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. T'as cette dimension, souvent on entend les jeunes créateurs qui te disent il n'y a même plus d'acompte, ou en tout cas les acomptes sont vraiment rikiki, donc il faut que je finance la production. À la moindre crise, ils annulent la commande et je me retrouve avec des quantités incroyables de vêtements que je suis obligé de brader sur des sites de braderie. C'est dans ce sens-là où je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu très compliqué et que le modèle est peut-être un petit peu s'essouffle, quoi. Quel est ton point de vue là-dessus ?
Mon point de vue, et comme je disais, c'est que ça dépend des produits, ça dépend des maisons, ça dépend des créateurs. Je pense aussi qu'on a... Bien évidemment, quand on a la chance d'avoir, et c'est notre cas en ce moment, 2-3 très grands succès de marques jeunes. Voilà. Après, elles n'ont pas forcément moins de 10 ans. Mais en tout cas, 2-3 succès de jeunes créateurs qui, justement, arrivent à se développer, à se consolider très, très vite.
Tu penses à qui ?
Non, mais je pense à un Jacquemus, je pense à une Marine Serre. Donc, c'est effectivement
des gros succès.
Des marques qui ont réussi très vite à avoir non seulement une... À concilier, ce qui est très rare, une très grande attention, une très grande, on va dire, communauté et une réalité business aussi derrière. Mais il n'y a pas forcément justement cette vitesse. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles qui vont beaucoup plus lentement et qui assument délibérément. Et d'ailleurs, moi, je suis un des entre guillemets, je pense qu'il ne faut pas non plus pousser la croissance pour pousser la croissance forcément des maisons. Sur le modèle wholesale, j'ai envie de dire un peu attention aussi au mythe de l'e-shop absolu pour une marque de création. Parce que ça va dépendre de votre univers, ça va dépendre de votre gamme de prix, de votre gamme de produits. C'est pas parce que vous arrivez à vendre 3 ou 4 robes ou vestes ou quoi que ce soit en DM sur Instagram que votre e-commerce tout d'un coup va vous permettre d'en vendre 100, 150, 200, 250 quand vous vendez des produits à 1500, 2000 ou 3000 euros.
Oui.
Donc c'est là où Ensuite, il y a des marques qui savent équilibrer et justement concilier une activité de e-commerce, mais avec des produits adaptés aussi, éventuellement à leur communauté en termes de prix, etc. On peut prendre effectivement l'exemple peut-être d'un Ludovic de Saint-Sernin. Effectivement, ses drops sur son propre site sont généralement sur des produits qui sont à la fois, et c'est là où c'est important, ils sont très emblématiques de sa marque en termes de son univers, aussi bien les bijoux que les maillots de bain, etc. Ils vont vraiment être à l'image de la marque et ils vont être par ailleurs sur des gammes de prix qui vont être plus accessibles que un pantalon, un manteau, une pièce en cuir ou quoi que ce soit.
Et on ouais, c'est l'exemple aussi de Marine Serre avec ses tops qui sont peut-être un peu plus accessibles que
le développement effectivement de Marine grâce à, notamment au fait que et là encore c'est ça ne peut pas se forcer. Il s'avère que dans les deux cas, il y a une vraie cohérence entre ce qu'est la marque, son message, son identité, son image et ce produit. Alors là aussi, c'est de, voilà, tout le monde n'est pas obligé de faire du jersey ou trouver un jersey qui va correspondre à ça, mais c'est de réfléchir effectivement à qu'est-ce qui crée aussi ce, qu'est-ce qui peut générer ce trafic pour une marque. Après, sur le wholesale en tant que tel, oui, il a beaucoup changé. Il y a peut-être plus de... Il y a plus de difficultés à appréhender les acheteurs et les directeurs des achats, mais c'est aussi parce qu'il n'y a jamais eu autant de marques.
Oui, c'est ça le sujet aussi. C'est que c'est tellement facile de créer une marque aujourd'hui.
Et dans le même temps, ces grands magasins américains dont on a tous connu un peu l'âge d'or, etc. D'abord, ils sont toujours présents pour certains, en tout cas pour Barniz a disparu, mais Feu Barniz, mais d'autres sont présents. Et ils ont surtout été remplacés par, par les quelques leaders du e-commerce.
Oui, c'est les Net-à-Porter, les Matches, et etc.
Et Maïtéresa, ou 24 Sèvres, qui effectivement aujourd'hui remplissent ce rôle auprès de certaines marques.
Et bien
donc,
sûr.
Vous avez un certain nombre de jeunes créateurs pour qui c'est leur premier client, aussi bien en volume que temporellement, chronologiquement, ça va être un Essence, un Matches, un Net-à-Porter, un Maïtéresa ou un 24 Sèvres. Et ça, c'est extrêmement intéressant et c'est assez prometteur, malgré tout.
Carrément. Justement, le...
Parce que par ailleurs, il y a plus de flexibilité chez ces retailers
à faire des drops,
à adopter des nouvelles méthodes, des nouveaux rythmes, parce que vous n'avez pas forcément cette même impératif de saisonnalité. Vous pouvez travailler sur un produit exclusif. Si vous êtes dans l'upcycling ou si vous êtes dans des dead stocks de tissus ou quoi que ce soit, vous pouvez travailler avec eux sur justement des collaborations, sur des collections exclusives. Vous pouvez travailler sur tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est assez intéressant et ça ouvre des opportunités.
Et typiquement, là, donc on sort à l'instant de la Fashion Week. C'est quoi, là? C'était la SS, quoi?
22.
SS22. Il y a eu le showroom Sphère. Donc, Sphère, peut-être dis deux mots sur le showroom Sphère. Qu'est-ce que c'est exactement? Et ma question, c'est voilà, vous avez eu des acheteurs qui sont venus. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent post-crise sanitaire? Fin de crise sanitaire, on croise les doigts.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, Sphère, c'est Sphère Showroom, en tout cas. C'est une plateforme qui. En fait, qui a pris le relais de quelque chose qui s'appelait Designers Apartment. Et l'idée de Sphère, c'est d'être dans une démarche vraiment de plateforme où on met à disposition d'une sélection de marques, en l'occurrence 8, pour la session là, de septembre, on met à disposition un espace, mais aussi un showroom digital, un soutien commercial au Palais de Tokyo pour leur permettre de vendre leur collection et de rencontrer des acheteurs. Donc on a eu, je dois dire, un trafic assez intense pendant cette semaine, ce qui était plutôt stimulant, avec des acheteurs assez ouverts sur des projets qui sont forts, sont créatifs. Idéalement, s'ils arrivent à avoir des bons prix, c'est bien évidemment toujours l'obsession d'un distributeur d'avoir des prix.
Est-ce que d'avoir des prix, ça veut dire
en tout cas une ouverture à des discours cohérents, forts, engagés.
Ok, il y a une recherche de ça.
Et des projets vraiment singuliers.
Qu'est-ce qui fait un projet singulier ? Qu'est-ce qui fait qu'un projet est singulier ? Qu'est-ce que tu leur dis à ces créateurs ? J'aimerais bien qu'on parle un peu de branding, de positionnement, etc. C'est qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour exister, quoi, dans cette opulence, là, je trouve pas le terme, mais en tout cas dans cette trop de marques, trop de choses, trop d'images, trop de projets, comment est-ce qu'on sort du lot?
C'est toute la question.
Oui.
Alors dans le fond, je pense que ça se décide pas. C'est soit un projet en tant que tel est différent ou pas. Après, on peut savoir bien l'exprimer ou l'exprimer ou avoir des difficultés d'expression. Je pense qu'on ne peut pas, qu'un projet bancal ne peut pas devenir tout d'un coup un projet singulier. Ça doit venir du créateur. Après, il y a toujours cette angoisse du créateur de ne pas en dire assez, de ne pas en dire... voilà, de toujours manquer dans son expression, etc. Alors que fondamentalement, je pense que, je vais pas dire moins on en fait, plus c'est fort, mais en tout cas, parfois c'est pas nécessaire d'en faire trop. Y a toujours le risque de se perdre quand il y a trop de choses, en fait. S'il y a besoin... Si ça ne se suffit pas à soi-même pour exprimer quelque chose, c'est qu'il y a un problème dans l'expression de la chose. Ensuite, sur vraiment, on va dire, le branding, la direction artistique, c'est vraiment... Je crois fondamentalement que on ne peut pas et il ne faut pas essayer d'influencer sur les créateurs là-dessus. C'est vraiment à eux, soit ils le portent, soit ils arrivent à avoir une vision, soit ils ne l'ont pas. On peut, à travers le dialogue, l'échange, peut-être parfois les questionner, et ces questions peuvent les conduire à expliciter de façon plus claire les choses. Mais on n'est pas là pour dire que... la direction artistique d'une marque ou que la campagne doit être plutôt ceci ou plutôt cela.
Ça, c'est pas votre rôle.
Non, c'est pas du tout.
Ça, c'est la responsabilité du créateur. Après, vous êtes là en soutien.
Si le créateur espère,
ouais.
C'est triste parfois. Et c'est vraiment par ailleurs aussi la philosophie du showroom, par exemple. On est là pour apporter un contexte pour qu'ils puissent se développer. Mais on n'est pas là pour faire à leur place. C'est pour ça qu'on demande à chaque marque d'avoir son équipe commerciale et d'avoir son équipe de presse, de communication. Ou en tout cas, certains le font eux-mêmes, mais il faut qu'ils l'assument de le faire eux-mêmes. Dans le sens où l'idée n'est pas de se de remplacer une marque dans ce qu'elle doit faire, un créateur dans ce qu'il doit faire, sachant que l'idée c'est plutôt de lui, voilà, de lui donner cette, cette scène où il peut, pour qu'il grandisse, et surtout une fois qu'il en sortira, parce qu'on n'a pas vocation à garder une marque pendant 10 ans au showroom, mais l'idée c'est de l'avoir 2-3 ans, 4 à 6 saisons, et de se dire après 4 ou 6 saisons, il devient indépendant, il sort de ce cadre-là, mais il sait se gérer, il n'a pas besoin de revenir à comment je fais pour vendre, parce qu'il y a quelqu'un qui a vendu pour lui pendant 4 saisons, ou 5 saisons.
C'est quoi le point commun de ceux qui réussissent ?
Ce qui serait bateau, ce serait de dire le talent, parce que malheureusement, c'est pas uniquement ce qu'il faut. Je pense qu'il faut une vision et dans le fond, il faut presque rester un peu naïf. C'est-à-dire qu'il faut être très pragmatique, mais rester un peu naïf parce que fondamentalement, si on savait tout ce qui nous attend en créant une marque, en la développant, en la gérant, etc., je pense que beaucoup n'auraient même pas créé leur marque. Mmh. Donc il faut une certaine insouciance plus que naïveté. Mais tout en étant très pragmatique, tout en étant tout en ayant une vision.
Moi, j'ai le sentiment que ceux qui réussissent, c'est quand même ils ont bon, c'est toute la difficulté du truc en fait. Hein, c'est qu'à un moment donné, il faut être à la fois naïf, créatif, avoir une vision et aimer le commerce. J'ai le sentiment que quand même tous ceux qui réussissent. Tu parlais de Jacques Musse, de Marine Serre, de Ludovic de Saint-Cernin, c'est qu'à un moment donné, c'est des gens qui ont une réalité, enfin ils se disent pour que mon histoire continue, il faut vendre, et pour vendre, il faut faire des choses qui soient vendables et qui soient accessibles. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont très pragmatiques dans leur approche du commerce, quoi. On fait un plan de collection avec des pièces fortes, mais aussi des pièces très simples, très faciles, qui sont accessibles et qui vont me faire mon business. Tu me rejoins là-dessus ou pas tant que ça?
Je pense que oui, c'est raisonné, parce que bien évidemment, au bout d'un moment, quand on gère une activité de plusieurs millions, on est attentif à ça. Après, je pense que la condition du succès, elle est dans la pertinence du propos, de l'approche, de l'offre par rapport à ce qu'attend sa communauté et sa cible. Ça ne se remplace pas et ça ne se prévoit pas. De toute façon, il n'y a rien de pire dans la mode que de refaire ce qui a été fait. Ça peut marcher une saison, un best-seller, ça peut marcher 2 saisons, mais ça ne marchera pas 15 saisons.
C'est sûr.
Et on voit même les grandes maisons, tous leurs icônes, elles apparaissent, elles reconnaissent un revival, on les remet un petit peu, elles vont revenir dans 10 ans ou dans 5 ans. Elles sont recostumisées, elles sont retravaillées. Ce qui est important, c'est de garder, de savoir effectivement à un moment limiter les risques, ou en tout cas savoir calculer les risques. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre de risques, parce que ne pas en prendre, c'est risquer quand même très rapidement, surtout dans la mode, de disparaître. Donc c'est de continuer à prendre des risques, mais bien évidemment en les calculant et en essayant de trouver des équilibres. C'est le propre même après du merchandising, c'est justement d'essayer de faire en sorte que on puisse continuer à rester fidèle à ce qui s'est vendu, tout en le renouvelant, tout en offrant aussi des nouvelles choses, etc. Ça c'est le premier point. Sur la première chose, ça va paraître vraiment une évidence, mais on peut pas vendre si on n'aime pas ses clients. Je pense que c'est pas que lié à la mode, c'est partout. Et que oui, les gens qui réussissent sont les gens qui ont du plaisir à voir leurs vêtements portés, qui, parce qu'un vêtement, fondamentalement, un vêtement, il existe quand il est porté, quand il est sur un corps, quand il bouge, quand il et c'est ça qui lui donne son sa raison d'être presque.
Carrément. Et dans toutes les marques que vous avez accompagnées, alors il y a eu des super succès, mais il y a aussi des projets qui se sont arrêtés, il me semble, enfin en tout cas qu'on entend moins parler. Et parfois c'est incompréhensible parce que je me dis il y avait des gens qui avaient un talent dingue et sur le papier ça avait l'air d'être c'était un succès écrit. Pourquoi ça s'arrête en général?
Il y a toujours mille raisons. Tout comme un succès est lié vraiment parfois à une combinaison de facteurs dont aussi des facteurs chance, faut être très, très honnête. Inversement, il peut y avoir des échecs qui sont dus à des questions de timing. Et après, on a toujours en tête, effectivement, de mesurer le succès d'une marque à, on va dire, son aura ou en tout cas son taux d'acclamation ou quoi que ce soit. Mais il faut aussi voir que, comme on disait précédemment, une marque, c'est aussi la supply chain, c'est faire de la production, etc. Et que c'est très complexe, c'est très exigeant, ça demande beaucoup de cash flow et que, particulièrement pour les marques émergentes, il y a fondamentalement ce paradoxe que le succès il peut conduire à la faillite du projet.
C'est parce l'horreur que, du truc.
Parce que si vous avez vos commandes qui doublent du jour au lendemain, sur le papier c'est formidable et tout le monde va applaudir, mais effectivement si vous en êtes à la 4e, 5e saison, les gens vous versent plus d'avance parce que c'est les gens vous versent de l'avance peut-être la première, deuxième saison, mais après, au bout d'un moment, on considère que vous êtes suffisamment grand. Il va falloir financer le tissu, il va falloir financer la façon, etc., les expéditions. Et généralement, vous allez vous retrouver avec des problèmes de cash flow, donc vous allez payer votre fabricant de tissu un peu en retard, qui va avoir 2 semaines de retard ou 3 semaines de retard, qui va conduire à 6 semaines de retard ou 7 semaines de retard à la fabrication, qui va faire que vous allez livrer à la fin de la saison et que vous allez avoir des très mauvais résultats et que la saison d'après, votre distributeur ne va pas vous racheter. Et paradoxalement, voilà, vous pouvez avoir un succès qui peut conduire et juste pour des raisons qui ne sont pas exogènes, parce que ça fait partie de ce qu'il faut savoir gérer, mais sur des raisons qui ne sont effectivement hors désirabilité du produit, hors appétence des distributeurs et hors talent du créateur ou de la créatrice.
Ouais, c'est dur. C'est horrible. C'est toute la... Non, mais c'est toute c'est, la... C'est...
Non, non, mais après, c'est c'est là où il faut être insouciant. Comme je disais, insouciant plutôt que naïf.
Ouais.
C'est, il faut être insouciant, un peu.
Il faut être fou. Un peu fou. Dans les projets qui t'ont accompagné, alors tu vas pas me dire ce que tu préfères, etc., mais je trouve qu'il y a des projets qui interpellent peut-être plus que d'autres, etc., mais... Alors, qu'est-ce qui, pour poser la question un peu différemment, mais de façon un peu détournée, mais quels sont ceux qui t'impressionnent le plus dans leur... peu importe pourquoi ils t'impressionnent, mais... Moi, j'adore une créatrice qui est américaine, qui s'appelle Bode, New York, je sais pas si...
Emily,
ouais. Je sais pas si vous la suivez toujours, d'ailleurs. T'avais les botteurs aussi, etc. Mais Bode, je trouve qu'il y avait un truc qui était hyper intéressant, parce qu'elle, Emily... racheter des couvertures, des draps, des linges de maison, etc. et en faisait des vêtements. On est quand même sur des pièces presque uniques, quoi, d'upcycling, etc. Comment ça peut exister sur le long terme? Enfin, comment ça peut exister? Comment ça peut... Pourquoi vous l'avez sélectionnée, elle, par exemple? Ça m'avait vraiment surpris quand elle avait été sélectionnée, parce que je me disais, il y a un côté quand même très artisanat et pas très industriel. Pourquoi la fédération s'intéresse à cette fille?
Alors, D'abord, elle a été candidate.
Déjà. Ok. C'est intéressant.
Le principe, c'est que les marques sont candidates pour les calendriers. Okay. Il y a une règle implicite qui est qu'on ne sollicite pas une marque à rentrer dans le calendrier. On échange avec les marques, bien évidemment. Et on ne ferme pas la porte si quelqu'un nous sollicite, mais voilà. C'était une petite parenthèse et un petit préambule. Ensuite, sur Emily Baud en particulier, ce qui est intéressant, c'est que c'est... Oui, il y a une dimension d'approche quasiment unique, mais c'est comment transformer ça aussi en... mais d'industrialiser ça. Avec une autre dimension intéressante, c'est que c'est de relier ça aussi à un patrimoine américain. Ce qui est assez rare de parler de patrimoine américain vu d'Europe. Mais c'est effectivement de travailler pas mal sur le côté effectivement du 19e siècle américain. Il y a eu sa collection sur le cirque et sur effectivement toute cette dimension un peu des cirques qui traversaient les États-Unis, etc. Donc voilà, il y a un côté très Americana aussi, mais qu'elle mêle avec justement ces patchwork, ce travail qui est quelque chose de très populaire, mais qu'elle sait rendre extrêmement créatif, extrêmement stimulant, et surtout qu'elle sait transformer en quelque chose d'extrêmement contemporain. Voilà, quand vous allez sur des sites comme Matches, Wessens, etc., ces collections sont distribuées, sont présentes, donc elle a su, même si c'est un processus effectivement d'upcycling, un peu comme Marine Serre, transformer ça aussi en
l'industrie,
en sorte de processus industriel.
C'est fou. À part Emily, quels sont ceux qui sont vraiment qui t'impressionnent, quoi, pour le dire simplement?
Emily, c'est pas particulièrement parce qu'elle m'impressionnait, c'est parce qu'on m'a posé la question sur Emily.
Oui. Pardon.
non, mais.
T'as raison, faut être précis. Pas de langue de bois.
C'est une question,
hein.
C'est une question compliquée et voilà, bien évidemment, je vais pas répondre à l'école des fans et dire ils sont tous bien, mais en fait, il y a un processus de sélectivité qui est déjà tellement exigeant objectivement pour entrer dans le calendrier. Il suffit de voir, chaque saison il n'y a qu'une ou deux marques ou trois marques au maximum dans le monde entier qui rentrent dans le calendrier, donc on est sur des processus de sélection. Parfois faut être très honnête, il y a des erreurs de casting parfois, et on peut à un moment donné croire dans un projet qui finalement s'avère n'aboutira à rien, et voilà, ça arrive et pour diverses raisons, assez souvent, soit ces marques-là décident de plus présenter, soit elles changent de projet, soit pour certaines vont peut-être disparaître. C'est pas pour dire que... mais justement, je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui et de plus en plus, c'est que chacun essaye, et c'est par ailleurs une spécificité de Paris, et presque j'ai envie de dire la magie de Paris, c'est que il n'y a pas d'école de style. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'ultra glam, ultra sexy, il peut y avoir du conceptuel ultra minimaliste, il peut y avoir du trash, il peut y avoir du... Et tout ça coexiste et cohabite à Paris, avec chacun un système de conception des collections, un système d'expression, un système de communication, un univers visuel, créatif et même commercial d'une certaine façon, qui lui est singulier.
Trop bien.
J'ai un peu fait l'école des fans sans faire l'école des fans.
Ouais, tu m'as bien eu là. Qu'est-ce qui t'amuse, toi, dans ce métier?
Qu'est-ce qui m'amuse? sincèrement, ils sont très amusants, les créateurs et les créatrices qu'on rencontre au quotidien. Ils peuvent être parfois un peu agaçants.
Ah bon?
Mais même quand ils sont agaçants, ils sont généralement...
Attachants. Attachants, c'est bien ça.
Non, mais ce qui est stimulant, amusant, c'est de... d'avoir des gens qui viennent vous présenter leurs projets, viennent vous parler de leur univers, viennent vous partager leurs doutes, leurs espoirs. Et ça, c'est stimulant.
Comment tu vois la suite des événements, toi, en ce qui te concerne, toi?
Pour le meilleur ou pour le pire, je me suis rarement posé la question, en fait.
Okay.
Donc je suis assez j'ai la chance de faire pas mal de choses, de faire des choses qui sont intéressantes, dont je suis plutôt satisfait et donc que je trouve effectivement excitante tout en étant exigeante. Donc voilà. J'ai la chance par ailleurs d'accompagner un peu la vie d'Annoailles sur le festival, ce genre de choses. Donc voilà, c'est plein de projets comme ça qui sont intéressants.
Ouais. Tu t'es créé vraiment un job, enfin, tu t'es pas créé, enfin, si oui, tu t'es créé un job qui est assez cool, où tu as quand même cette flexibilité de travailler sur plein de projets différents, avec plein de gens différents, etc. C'est passionnant. Je comprends que t'es pas trop forcément envie de changer quoi que ce soit, parce que ça se passe bien. Est-ce que tu ferais quelque chose de différemment, d'ailleurs, dans ta carrière, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais ce même chemin?
La philosophie, c'est un peu de ne pas avoir de regrets. Donc, objectivement, je ne me pose pas la question. Une fois encore, j'ai eu la chance de travailler à chaque fois avec des gens assez inspirants, des gens qui m'ont beaucoup appris. Voilà, je trouve que c'est déjà que j'ai eu déjà pas mal de chance. Jusqu'à présent.
Touche du bois.
Aussi à l'avenir.
Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un super bon tour. Je suis hyper content d'avoir pu échanger avec toi. Est-ce que des sujets que tu aurais voulu aborder, peut-être, qu'on n'a pas forcément abordé? Non.
Non, pas particulièrement.
Est-ce qu'il y a des gens que tu souhaiterais entendre dans ce podcast?
Oula, c'est une question difficile. Quelqu'un que je souhaiterais... voir invité dans ce podcast. Il y a une jeune femme chercheuse que je trouve assez brillante et qui a un vrai discours très intéressant sur notre industrie, qui est Saveria Mandela.
Ok, très bien, parfait. Et dernière question, tu sais, j'ai une marque qui s'appelle Réunis. Et j'aimerais beaucoup que tu me... Je crois que tu as été récemment sur le site, tu me le disais tout à l'heure. Toi qui as l'habitude de donner des conseils aux jeunes marques, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Qu'est-ce que tu ferais différemment chez Réunis? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil pour améliorer la chose?
C'est un piège. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ça, c'est une question difficile, parce que c'est plutôt bien fait jusqu'à présent et assez cohérent là aussi. Non, mais peut-être que la philosophie pourrait être plus... plus exprimée. Elle est exprimée sous la forme de ce manifeste, mais voilà, peut-être... Je ne sais pas comment d'ailleurs, je n'ai pas forcément la recette, mais que ce soit plus, plus apparent. Voilà.
Tu veux dire ce côté cette précommande, cet art de vivre, cette façon de consommer,
oui, mais
etc.
Mais aussi sur la transparence de la façon, sur tout ça.
Ouais. Qu'on le voit encore plus que ça ne l'est aujourd'hui. Ouais.
Voilà. Ensuite, je trouve que sur... je trouve que c'est un projet qui est très ancré dans le réel, dans le quotidien, mais au sens positif du terme. Mmh. Et que peut-être un souci d'esthétisme lui retire un peu de vitalité. En tout cas, visuellement, je sens quelque chose de, entre guillemets, un peu froid, alors que je trouve que c'est un projet plutôt chaleureux. Donc voilà, mais c'est peut-être une... Tout ça est d'une subjectivité absolue.
Ouais, mais c'est hyper intéressant. Et j'entends et j'accepte les pas les critiques, mais en tout cas les conseils.
Non, c'est pas une critique, c'est voilà,
c'est un constat, une perception. Ouais.
Donc voilà, c'est le deuxième. Que le deuxième peut être un troisième aussi.
Ouais, peut-être. Ouais.
non, et le troisième. Non, je trouve que voilà, ça peut. Mais après, c'est aussi des questions de taille et d'échelle. Effectivement, c'est un projet qui, par ailleurs, est intéressant à décliner ensuite. Typiquement, la chemise sur... pourquoi pas offrir différentes qualités de tissu sur la chemise, etc. Qui peuvent aussi avoir différentes approches et qui peuvent aussi voilà, permettre d'avoir une démarche plus globale. Dans le vestiaire, justement.
Trop bien. Franchement, super conseil. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un me donne des conseils aussi précis et qui a vraiment pris le temps de regarder. Merci Serge. Franchement, je suis trop content d'avoir passé un peu de temps avec toi. Good luck pour la suite des événements. Bonne chance et à bientôt, j'espère. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser.
Avec plaisir. Merci beaucoup Adrien.
Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.